Bienvenue dans cette édition spéciale de L'Accent des Autres, le rendez-vous hebdomadaire des rédactions des médias francophones publics, une édition des fêtes consacrée au prix du journalisme des MFP qui a couronné France Info cette année. Nous avons le plaisir de partager avec vous ces deux prochaines semaines des extraits des sujets proposés par Radio-Canada, la RTBF, RFI, la RTS et bien sûr Radio France. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans le Grand Nord canadien sur les traces d'une jeune Inuit qui a grandi à Montréal et qui découvre son village d'origine. Nous irons en Haïti après le séisme de cet été et pénétrerons aussi dans un laboratoire suisse où des chercheurs pratiquent des expérimentations sur des animaux pour faire progresser la science. Ce prix du journalisme, c'est votre choix. Au début du mois de décembre, vous étiez 20 en France, au Canada, en Belgique, en Suisse et dans le reste de la francophonie, dans les zones de diffusion de RFI. 100 auditrices et auditeurs au total, donc, qui ont choisi leur reportage préféré parmi les propositions des 5 radios francophones publiques. Un choix qui s'est donc porté sur France Info. Nous découvrirons ce sujet la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous commençons notre périple en Haïti, 2 semaines après le séisme du 14 août 2021. Ce tremblement de terre de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter ravage le sud-ouest de l'île. Bilan 2200 morts et 13 000 blessés. Les dégâts matériels sont considérables. Des écoles aussi s'effondrent. La volonté du gouvernement de maintenir la rentrée scolaire au 6 septembre paraît illusoire. Stéphanie Schuller, Nicolas Benita et Marc Kingtop Casimir de RFI s'en sont rendus compte sur place. Extrait.
Nous avons déjà visité 10 écoles. Sur ces 10 visités, il n'y a que 2 qui peuvent recevoir d'élèves. Donc, la prochaine ouverture des classes qui est prévue pour le 6 septembre à Beaumont, cette ouverture n'est pas possible.
Fortin Rollin est l'inspecteur principal du district scolaire de Beaumont dans la Grande Anse. Comme ses collègues dans tous les départements sinistrés par le séisme, il a débuté la semaine dernière une inspection complète des établissements scolaires. L'inspecteur est accompagné dans sa mission par Jean-Ernst Saint-Fleur, un représentant haïtien de l'UNICEF.
On est dans tout le département, milieu reculé ou pas, on y va. Et dans cette évaluation, effectivement, je suis à Beaumont, mais je vais me rendre dans les hauteurs de Dame-Marie, à Pestel, à Corail, pour faire le travail, parce qu'il faut effectivement qu'on arrive, c'est ça l'une des missions de l'UNICEF, aider les plus vulnérables, et les plus vulnérables, généralement, se retrouvent dans des endroits les plus reculés. Ils ne sont pas toujours à vie d'œil, et nous, on doit les retrouver et les aider.
Dans la petite ville côtière de Corail, lourdement touchée par le séisme du 14 août, Ronnie Placide est inquiet. Il est enseignant dans une école privée de la ville. Son établissement est à terre, tout comme sa maison.
Je ne reçois aucun salaire. Normalement, les parents payent les frais scolaires à la rentrée et ensuite seulement les enseignants sont payés. Mais si l'école reste fermée, je ne gagne rien. C'est terrible pour moi et ma famille qui dormons à la Belle Étoile.
Les soucis économiques tourmentent aussi les parents d'élèves. Les paysans notamment ont tout perdu dans la catastrophe. Or, 80% des écoles en Haïti sont privées et donc payantes. Alcé Laveau vit à Tournade, un petit village perché dans la montagne au-dessus de la ville de l'Asile, dans le département des Nippes.
Actuellement là, ici, les paysans vivent principalement de l'élevage. Leurs têtes de bétail sont leur seul capital. On vend une bête pour payer les frais scolaires. Mais le séisme a tué beaucoup d'animaux. Les gens n'auront pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école.
À Beaumont, dans le département de la Grande Anse, l'inspecteur principal du district scolaire, Fortin Rollin, s'apprête à visiter la prochaine école détruite.
En Haïti, surtout en ces derniers temps, nous vivons une histoire très difficile. Nous venons de perdre notre président et ce séisme vient nous frapper. Donc l'une des façons qui serait la plus utile, c'est de véritablement avoir une éducation de qualité en Haïti. À nous aider à nous relever sur le plan physique, mental, intellectuel. Aider à ce que la jeunesse haïtienne ait une nouvelle conception de la vie. Ça, c'est la seule façon pour nous de rêver une Haïti meilleure pour les futures générations.
« Voilà pour cet extrait du reportage proposé par Radio France Internationale. Avec Radio-Canada, départ tout de suite pour le Grand Nord. Daphné Anne Olepika, une jeune femme d'origine inuite, élevée par une mère adoptive à Montréal, entreprend de retrouver les traces de ses origines. Pour la première fois, à 26 ans, elle ira au Nunavut à la rencontre de sa famille biologique à Grisfjord, le village le plus au nord du Canada. Extrait de son témoignage recueilli par Michel Montreuil.
C'est pas tant pour revoir la ville de ma naissance que je suis à Iqaluit. C'est parce que c'est une étape obligée pour me rendre là où je suis jamais allée. Grisfjord, le village de ma famille biologique. Là d'où venait Mary Takpani. Là où j'ai des oncles et des tantes que j'ai encore jamais vues. Là où, dans une autre vie, j'aurais dû grandir.
Welcome to Grisfjord, everybody. Hope you enjoyed the flight.
You look terrible.
Why?
I don't know.
Il y avait ma cousine qui m'attendait à l'aéroport avec des gens que je connaissais pas. Je savais pas trop c'était qui, si c'était ma famille, si c'était pas ma famille. Je me sentais vraiment étourdie parce qu'il y avait du monde, puis c'était un nouvel environnement, puis j'étais comme un peu sous le choc. Ma tante Mika est clairement le pilier de la famille et la mairesse du village. Elle a retardé le souper de Thanksgiving d'une semaine pour que je puisse fêter ça avec eux, pour que je puisse avoir toute la famille autour de moi en même temps.
J'ai toujours peur de ce jugement-là, de pas parler inuktitut, d'avoir l'air d'une blanche.
Ce party-là a été dans les moments les plus intenses de ma vie. J'ai rarement connu de party de famille avec autant de monde. Et même si je me suis engagée que c'est à eux que je dois le voyage, j'avoue que les micros de Radio-Canada me dérangent. Je voudrais être seule avec ma famille. Difficile de vivre quelque chose d'aussi vrai et d'un peu fou. D'aussi intime et de public en même temps. Sur la photo de famille qui a été prise après le repas, on compte 22 personnes.
They were saying that...
La première fois que j'ai rencontré mes tantes puis mes oncles, ils se regardaient, ils parlaient en inuktitut, puis ils me regardaient du coin de l'œil. Puis je les ai regardés, j'ai dit « qu'est-ce qu'il y a? » Puis ils m'ont dit à quel point je leur faisais penser à leur mère. Pour moi, de découvrir ma famille biologique, c'était un moyen de me sauver la vie un peu, de sauver mon futur, parce que quand que ma mère est devenue malade, j'ai tellement eu peur de me retrouver seule au monde, puis je suis vraiment en train de vivre une guérison, là, même si je pleure à chaque jour, puis que je suis fatiguée à chaque jour, puis que je suis comme irritée à chaque jour. Peut-être que ça ressemble à ça, la guérison, peut-être.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Nous retrouverons la semaine prochaine les sujets de la RTBF et de Radio France. Aujourd'hui, nous terminons avec la RTS. La Suisse pourrait interdire l'expérimentation animale et avec elle la vente de médicaments testés sur les animaux. Le peuple tranchera la question en février. Les détracteurs dénoncent les méthodes peu transparentes des chercheurs et les accuse de provoquer des souffrances inutiles. À l'Université de Fribourg, un laboratoire de neurosciences utilise des animaux. Muriel Balamand a pu y pénétrer.
Chacun a sa manière de frapper à la porte. Moi, je fais toujours de cette façon-là. Ils me reconnaissent déjà à l'avance. Salut les toupayas et les mimis. Vous en voyez un ici. Il ressemble à un écureuil, avec donc cette très longue queue, ce joli petit corps tout élancé. Et puis vous verrez alors le museau, quand même plus allongé que celui d'un écureuil.
Il y a de la musique ?
Il y a une musique de fond, parce que, alors ici, comme c'est des animaux sensibles, on essaie vraiment que ce soit un espace très zen. C'est les toupayas qui mangent. Tout d'abord, on apprend aux animaux à nous montrer qu'ils perçoivent tel stimulus. Suite à ça, on va les rendre aveugles d'un œil.
Ça les fait souffrir ?
Alors, ils ne souffrent pas au moment où on fait les expériences comportementales. Évidemment, comme pour toute opération, il y a de la douleur due simplement parce que la peau du scalp a été ouverte. Et là, on contrecarre la douleur par une médication appropriée.
En moyenne, vous utilisez combien d'animaux ?
On travaille avec, par année, une dizaine d'animaux et on en sacrifie peut-être 5.
Donc celui-ci, vous savez qu'il est condamné ?
Oui.
Ça vous fait rien ?
C'est insupportable. C'est insupportable. Je fais encore des cauchemars sur les animaux avec qui j'ai travaillé il y a 15 ans en arrière. Ça me hante. Mon âme est contre l'expérimentation animale. C'est insupportable pour moi l'idée qu'on décide de manière arrogante et parce qu'on n'est pas capable de supporter la mort, parce qu'on n'est pas capable de supporter la douleur, on n'est pas capable de supporter la souffrance. Et quand je dis « on », je dis « je », eh bien, on sacrifie ces victimes animales sur l'autel de la recherche scientifique. Et sans expérimentation animale, ma mère serait morte. Mon chien que j'adore, mon petit compagnon de vie, il serait aussi mort. Et je sais que c'est aussi grâce à l'expérimentation animale que ces êtres qui me sont si chers sont toujours en vie.
Oh, transport de macaques.
Alors là, vous avez les cocolettes qui sont appliquées dans le projet Addiction. Alors vous voyez cette pupus là, par exemple. Salut Fifi. Et vous voyez, elle a cet implant. On appelle ça une chambre d'enregistrement électrophysiologique. Et en fait, là-dessous, il y a une électrode qui va atteindre une région du cerveau qui joue un rôle dans les dépendances, dans les addictions. On va pouvoir aider les individus à se défaire de leurs addictions.
Voilà pour ce reportage de la RTS. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous des médias francophones publics. La semaine prochaine, second volet de cette édition spéciale consacrée au prix du journalisme des MFP avec les reportages de la RTBF et de Radio France.